Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous une excellente fête des pains sans levain. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'à présent. Je voudrais que nous puissions être ensemble, tous ensemble, pour célébrer cette fête. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais nous espérons pouvoir reprendre les voyages bientôt et nous retrouver entre nous, en groupe. En ce jour, vers l'an 1443 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu les avait libérés par la mort des premiers-nés des Égyptiens. Il fallait qu'ils soient prêts à partir rapidement, et la Bible dit qu'ils sont partis la main levée. Mais leur joie n'a pas duré très longtemps, parce que Pharaon s'est mis à leur poursuite très très rapidement, comme nous le lisons dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. » Alors que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient dit auparavant. Et le peuple se plaignait. Moïse s'est plaint à Dieu également. Et verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Continuez votre route. Je m'occupe des Égyptiens. » Ils étaient libérés, mais poursuivis. Tout cela est symbolique pour nous. Nous avons été, par le sacrifice de Christ, appliqué à nous, à notre compte, au moment du baptême. Nous sommes libres du péché, de nos péchés passés, mais le péché nous poursuit quand même, à la façon de Pharaon. Hébreux chapitre 12, verset 1 parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai, le péché est à nos trousses. Satan, comme Pharaon, voudrait nous ramener en captivité, Pharaon aux captivités, captivités physiques, Satan, une captivité spirituelle, il veut nous séduire de nouveau. Et comme les Israélites, nous devons continuer d'avancer. Nous devons poursuivre notre chemin. Ne jamais arrêter notre mouvement en avant. Chercher toujours un progrès. Il y a des histoires inspirantes qui sortent des tragédies de la guerre. J'ai récemment lu encore un autre livre qui sortit récemment aux États-Unis et qui était vraiment fascinant concernant le début de la guerre 39-45. Au début de cette guerre, tout semblait se liguer contre la France et l'Angleterre. Hitler avait vaincu presque toute l'Europe, y compris la France, alors qu'en Angleterre, Winston Churchill et Charles de Gaulle ont rallié les Anglais et les Français, les incitant à résister quand même, ce qui avait un air assez désespéré en 1940. Ils étaient déterminés de se battre, sans savoir si vraiment ils pouvaient gagner. Des histoires, des exemples comme ça sont très inspirants pour nous. Eh bien, pour nous, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes engagés dans une lutte spirituelle, une bataille spirituelle, on peut dire. Nous passons parfois par des moments difficiles, et pénible. Mais pour nous, la victoire est certaine. Ça ne semblait pas être le cas en 1940, mais pour nous, puisque nous pouvons lire la fin de l'histoire, nous savons que nous sommes sur le côté gagnant. Notre côté gagne à cause du général qui nous guide. Il faut cependant bien connaître son ennemi et la stratégie nécessaire pour vaincre ses ennemis. Et c'est ce que je vous propose de considérer aujourd'hui, le temps de ce sermon. Israël faisait face à trois ennemis. Nous avons les mêmes trois ennemis aujourd'hui. Le monde, Satan et nous-mêmes. C'était vrai pour les Israélites aussi. Satan les poursuivait, c'est lui qui poussait Pharaon, le monde, à s'attaquer à eux. Nous avons ces mêmes trois ennemis aujourd'hui. Le monde, Satan et nous-mêmes. Regardons ça rapidement comme révision avant de passer à certaines stratégies que nous pouvons utiliser pour être des vainqueurs. Premièrement, le monde. Le monde dans lequel nous vivons va dans le sens contraire de la voie de Dieu. On trouve cela normal. C'est devenu la norme dans notre monde de vivre dans le péché, d'avoir des valeurs qui sont contraires aux valeurs de Dieu. C'est devenu la norme, c'est devenu moyen. C'est rarement facile de nager à contre-courant et c'est cela que nous devons faire. Le monde nous attire dans un mauvais sens. Jean chapitre 16, s'il vous plaît, Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, Jésus dit à ses disciples le soir de la Pâque, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous aurons et nous avons des tribulations dans le monde. Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et avec son aide, nous pouvons le faire également. Comment Jésus a-t-il vaincu le monde? Nous trouvons une référence dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 20. Romains chapitre 12, verset 20. Voici ce que Jésus a fait et ce que nous devons faire pour vaincre le monde. Romains chapitre 12, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ainsi que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le mal par le bien. Et c'est ce que nous devons tâcher de faire également. Vous savez, quand nous sommes très occupés à faire le bien, quand nous sommes proches de Dieu, quand nous sommes en train de servir, d'aider, quand nous sommes actifs dans les activités de l'Église, eh bien, nous n'aurons pas le temps de nous mêler à d'autres choses de négatives. Quand on remplit sa vie de choses positives, eh bien, nous pouvons vaincre le mal. Au verset 2, dans Romains 12, verset 2, nous lisons également, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas vaincre par le monde, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu nous renouvelle à l'intérieur, nous donne la force de persévérer dans notre lutte contre le monde. Nous ne devons pas accepter automatiquement comme normal ce que le monde voit comme normal. Tout doit être mesuré ou comparé à la règle que nous avons ici dans la parole de Dieu. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques années dans un camp pour des adolescents de l'Église. Il y avait un groupe de jeunes qui est venu vers moi et voulait savoir pourquoi c'était si important de ne pas commencer les contacts sexuels avant le mariage, pourvu qu'on n'aille pas jusqu'au bout, comme ils avaient dit. Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Il y a quelques générations, une génération ou deux, les jeunes dans l'Église n'auraient pas posé cette question. Pourquoi est-ce qu'ils le posaient là? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la moralité ou le manque de moralité dans le monde. Les standards dans le monde ont tellement baissé que ça a un impact sur nos jeunes et en fait sur nos moins jeunes également. Aujourd'hui, on considère comme normal les choses qui ne sont pas normales aux yeux de Dieu. Et si on se mesure par ce que font les autres, on va se tromper. Nous devons nous mesurer par ce que Dieu nous fait comprendre dans sa parole, pas ce que nous voyons autour de nous. Alors j'ai expliqué à ces jeunes, je leur ai expliqué que la sexualité a été créée par Dieu pour une raison précise. Pas à être utilisée n'importe comment, comme bon nous semble, selon ce que nous estimons être la bonne utilisation, et parfois, ils ne voulaient pas accepter cette explication de ma part. puisque tout le monde le fait, c'est ce qu'ils ont dit. Certains m'ont même dit que les parents de leurs amis leur donnaient des moyens de contraception. Alors pourquoi nous, dans l'Église, on doit être si différents? La règle semblait être que si une fille ne tombait pas enceinte, il n'y avait pas de mal, tout allait bien. Alors je leur ai posé une autre question. J'ai dit, est-ce que vous pouvez imaginer le jeune Jésus-Christ en train de s'isoler avec une jeune fille pour faire un petit flirt, comme on dirait aujourd'hui, juste pour lui témoigner son affection et appréciation? Quand je leur ai posé la question, ils ont dit, mais non, on ne peut pas imaginer ça. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et ils ont répondu, finalement, ils ne voulaient pas répondre à la question. Ils ne voulaient pas dire parce que ce n'est pas bien, ou ce n'est pas moral, ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ne voulaient pas prononcer les paroles, mais en fait, c'était la seule réponse possible. S'ils ne voyaient pas Jésus-Christ faire une chose, c'est que ce n'était pas bien. Mais ils ne voulaient pas le dire. Les influences du monde rendent plus facile le fait de faire des compromis avec la volonté de Dieu. Le monde nous tire vers le bas. Nous pouvons faire des compromis avec la loi de Dieu, qui est le minimum à respecter, et peut aussi rendre plus facile de compromettre la volonté de Dieu, qui va plus loin que la loi de Dieu. La loi, c'est le minimum, la volonté de Dieu va plus loin, la meilleure chose à faire. Alors nous devons faire attention au monde. Ce que la Bible appelle dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux n'est pas uniquement sexuelle, c'est là-dedans, bien entendu, mais il y a d'autres convoitises des yeux, des belles choses que nous voyons, que nous voudrions avoir. On se met à vouloir avoir quelque chose auquel on n'a pas droit. La convoitise des yeux, ça c'est le monde à l'œuvre. Le monde nous présente des choses que nous voudrions bien avoir, alors que nous n'avons pas droit de l'avoir. Deuxième ennemi que nous avons, c'est Satan. Satan rôde autour, nous le savons, c'est un passage que nous citons souvent. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais, aussi dangereux qu'il soit, il peut être vaincu. Regardons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 13. 1 Jean chapitre 2, verset 13. 1 Jean chapitre 2, verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Nous pouvons, avec l'aide de Dieu, vaincre le malin. Et une arme offensive que nous avons à utiliser dans ce combat contre notre adversaire se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. C'est là, vous le savez, nous avons toutes les armes de Dieu, la panoplie chrétienne. Et la plupart des pièces qui sont mentionnées ici sont une armure pour défensive. Alors qu'il y a une arme offensive qui est mentionnée. Éphésiens chapitre 6, verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est notre arme offensive contre Satan. Pensez à comment Jésus-Christ s'est servi de cette arme quand Satan le tentait dans Matthieu chapitre 4. Ordonne que ces pierres deviennent des pains, etc. Et à chaque fois, Jésus-Christ a répondu par un passage biblique qui répliquait parfaitement à cette tentation. Nos épées de l'esprit doivent être bien aiguisés, en bon état, sans être rouillés du tout. Nous devons les utiliser souvent, fréquemment, travailler, pratiquer avec, pour pouvoir gagner le combat que nous menons contre Satan, qui nous tente. Satan est le prince de la puissance de l'air. Ce que nous comprenons, ça veut dire qu'il est capable de mettre des pensées dans notre esprit. Et ça vous est arrivé probablement comme moi, parfois il y a une pensée bizarre qui vient, ça vient d'où ça? Et parfois c'est une pensée qui tend dans le sens d'une tentation de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Ça c'est Satan qui est capable de faire cela. à nous de savoir répliquer immédiatement. Non, ça c'est contraire aux Écritures. Je pense à ce passage, je pense à ce verset-là qui dit exactement le contraire. Non, je ne vais pas considérer cette pensée, je le chasse. Ça, c'est comme ça que nous pouvons vaincre Satan et ses tentations. Le troisième ennemi que nous avons à affronter, c'est nous-mêmes, notre nature humaine. Et ça, c'est l'ennemi le plus difficile à vaincre. La bataille entre nos oreilles, pour ainsi dire. C'est un vrai combat. Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, verset 24. Même l'apôtre Paul, quand il réfléchissait à sa situation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La lutte est difficile contre nous-mêmes, contre notre nature charnelle, notre nature humaine. C'est un vrai combat. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Misérable que je suis. Et si nous étions laissés à nos propres moyens uniquement, eh bien, on serait vraiment misérable. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre, même vaincre nous-mêmes. Tournons quelques pages dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Dans le contexte, on comparait Paul et Apollos, moi je suis de celui-là, moi je suis de celui-ci, etc. Et ils étaient enflés d'orgueil dans leurs discussions. Et ça se trouve très souvent dans les communications entre êtres humains. L'orgueil d'avoir raison, être certain d'avoir raison contre quelqu'un d'autre. Peut-être de diminuer l'autre personne dans notre esprit parce qu'il n'est pas de notre avis. Quand on est enflé d'orgueil, c'est un grand danger. Ça, c'est probablement le plus grand piège pour un être humain que nous devons vaincre. Verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Paul allait venir mettre de l'ordre dans la situation à Corinthe, et il y avait de quoi. Dans le chapitre suivant, 1 Corinthiens 5, verset 2, « Vous êtes enflés plutôt d'orgueil. » Il le mentionne plusieurs fois, c'était un grand problème à Corinthe au moment de cette première épître. « Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Il y a des actions qui sont si graves qu'il faut ôter la personne de la congrégation jusqu'à ce qu'il y ait repentir et qu'on puisse réintégrer la personne. Quand on est enflé d'orgueil, on est dans un grand danger spirituel. La solution, c'est l'affliction, c'est-à-dire le repentir. Nous affligeons quand nous devons admettre nos torts devant Dieu, demander pardon, demander son aide pour nous remettre debout et continuer notre chemin. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, Colossiens chapitre 3, verset 5, nous avons une autre description que nous devons garder à l'esprit. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. On idolâtre quelque chose de physique qu'on voudrait avoir. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourront sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Le vieil homme, nous devons être dépouillés du vieil homme, le vieil homme qui est mort dans les eaux du baptême et qui doit rester enterré. Nous ne devons pas permettre à ce vieil homme de ressurgir de l'eau de nouveau. Alors dans un an, quand nous serons à la fête des pains sans levain l'année prochaine, est-ce que nous pourrons nous regarder, est-ce que nous pourrons regarder plutôt en arrière et voir, au cours de l'année à venir, des progrès? Est-ce que nous pourrons voir des progrès, des victoires spirituelles? Pas autant que nous voudrions, ça c'est toujours le cas, mais du progrès quand même. Progresser avec une faiblesse ou progresser contre un péché qui nous nargue. Nous pouvons prier et demander à Dieu des victoires. Père, permets-moi de progresser cette année. Permets-moi de gagner des victoires dans ma lutte contre moi-même. Contre moi-même, contre le monde et contre Satan. Bon, ça c'était une révision de quelque chose que nous connaissons, mais c'est bon de temps en temps de revoir les fondements de ce que nous avons à faire en tant que chrétiens. Nous n'avons jamais oublié ces trois ennemis spirituels que nous devons vaincre, le monde, Satan et nous-mêmes. Maintenant, je voudrais passer à sept points clés que nous devons appliquer pour être des vainqueurs, pour pouvoir vaincre spirituellement. Premièrement, nous devons demander à Dieu de nous permettre de voir clair, de voir les choses comme Dieu les voit lui-même. Parce que l'être humain ne voit pas les choses comme Dieu les voit d'ordinaire. Il faut l'intervention de Dieu par son esprit, une transformation de nos esprits par le Saint-Esprit pour voir clair. Le péché est séducteur. Il peut nous séduire. Et quand on est séduit, par définition, ce n'est pas tout ce qui se passe. On n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. C'est ainsi que nous devons voir clairement. Nous devons avoir une vue exacte de la situation, voir nos vies comme Dieu nous voit. Il est parfois difficile de voir clairement. Et en particulier concernant nous-mêmes, nous n'aimons pas voir le côté sale. Nous n'aimons pas voir le mauvais chez nous. Et parfois, nous sommes limités par nos sens qui peuvent facilement être trompés. Avez-vous déjà constaté, quand vous êtes au bord de l'eau, peut-être dans un bateau ou au bord d'un ruisseau ou un lac, si vous faites entrer une branche ou un aviron dans l'eau, vous notez que à cause de la réfraction de la lumière, ça semble partir dans... ce n'est plus droit. Ça entre à un angle et puis vous voyez partir le reste de l'aviron, de la branche, à un autre angle. Ça a l'air d'être tordu ou différent, ne pas être droit. L'objet entre dans l'eau à un angle, mais dans l'air, nous voyons partir dans un autre angle. Nos yeux nous indiquent cela très clairement. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que l'aviron n'a pas vraiment changé de construction. Pourtant, nos yeux nous disent, ben oui, ça part à un autre angle, hein, c'est cassé au milieu. Il peut être de même pour notre perception spirituelle. Nous pouvons regarder une chose, un élément spirituel de nos vies, et voir que c'est comme ci ou ça, quand en réalité, c'est autrement. Ce n'est pas ce que nos yeux nous indiquent. Nous ne voyons pas toujours le péché non plus, parce que le péché est traître. Il peut se déguiser en autre chose. Le physicien éminent Richard Feynman a dit à propos de nos théories personnelles, notre optique sur la vie, il a dit « Le point le plus important est de ne pas vous tromper vous-même. Et vous êtes la personne la plus facile à tromper. » Nous arrivons facilement à nous tromper, à nous voir en mieux que ce que nous sommes, en réalité. Ça, c'est la nature humaine qui ne veut jamais avoir tort, qui veut toujours avoir raison. Et si nous ne nous remettons pas en question et si nous n'avons pas une vision claire que Dieu peut nous donner, nous allons nous tromper. Hébreux chapitre 3, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Le péché est séducteur. Il peut nous happer par derrière. Nous pouvons être tellement certains d'avoir raison que nous ne voyons pas des questions vraiment fondamentales que nous devrions voir. J'imagine que vous pouvez penser à des conversations que vous avez eues avec d'autres personnes. Des personnes qui étaient tellement convaincues d'avoir raison, alors que vous voyez très clairement qu'ils se trompent. Impossible de leur prouver le contraire. Ça arrive, parce que comme nous lisons dans Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est difficile de connaître nos propres cœurs. Ça, c'est Jérémie chapitre 17, verset 9, si vous voulez le regarder après. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui est capable vraiment de sonder son propre cœur? Ce n'est pas facile à faire. Et à peu près la seule façon de le faire, c'est de regarder à travers les lunettes de la Bible. C'est en regardant à travers la Bible que nous pouvons avoir une vue claire. Donc, première clé pour être un vainqueur, c'est que nous devons demander à Dieu de nous donner une vision spirituelle claire, de voir les choses comme lui, il les voit. Et il est capable et il veut nous aider à faire cela. Deuxième point. Nous devons souvent regarder dans le miroir de la loi. Ça va de pair avec ce que je viens de dire. C'est la parole de Dieu qui ne bouge pas. C'est la parole de Dieu qui dit vrai, qui nous montre ce qui est vrai, qui nous montre l'optique de Dieu sur tous les aspects de la vie. Nous devons souvent regarder dans le miroir de la loi. C'est comme ça que Jacques l'a décrit. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il n'agit pas s'il voit qu'il y a une tache sur son visage ou que ses cheveux ne sont pas coiffés ou autre chose. Il regarde, il constate, puis s'en va sans agir. Sans agir. Ça, c'est ce que nous ne devons pas faire. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La façon de voir clair spirituellement, c'est à travers les pages de la Bible. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et ensuite, nous pouvons nous juger nous-mêmes. Avec les clés de discernement qui nous sont données dans la Bible. Nous pouvons discerner nos motivations. Nous pouvons considérer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce que je suis ainsi avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je veux dire ceci ou dire cela? Quelle est ma motivation? Nous devons regarder souvent dans le miroir de la loi parfaite de la liberté. C'est comme ça que l'on voit clair et qu'on peut se mettre à l'œuvre également, qu'on peut agir. Regardez souvent le miroir de la loi. Une troisième clé maintenant, c'est de garder l'habitude de se repentir. On ne doit jamais perdre cette attitude de se repentir. Ce n'est jamais agréable de reconnaître qu'on a tort. Même juste entre nous et Dieu, ce n'est pas agréable de voir admettre ses fautes. Parfois, on laisse tomber. Parfois, on laisse traîner le repentir. Nous devons garder une attitude de repentir jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est très important. Et sitôt que nous nous rendons compte que nous avons transgressé une instruction de Dieu, c'est le moment de demander pardon immédiatement. Et quand nous pouvons nous mettre à genoux pour parler plus en profondeur avec Dieu et pour méditer comment cela s'est passé, quelle était la situation qui a mené à ce péché Et comment est-ce que je peux faire pour éviter de retomber dans les mêmes circonstances dans l'avenir? Il y a quelques années, en Californie, une jeune femme a été tuée par un lion dans un parc d'animaux exotiques. Elle a été tuée par ce lion. Pour une raison encore inconnue, le lion a pu ouvrir la porte de sa cage et il a sauté sur la femme qui faisait le nettoyage et qui avait le dos tourné. Il a frappé avec une telle force qu'il lui a cassé la nuque. Elle a eu la nuque brisée parce qu'elle a tourné le dos à un danger, à un lion. Nous n'osons pas tourner le dos au péché, c'est-à-dire ne pas nous en soucier tellement. C'est sérieux, c'est grave. Ça doit être dans notre esprit tous les jours d'éviter de transgresser la loi de Dieu, de remplacer la transgression par la justice, par l'obéissance à Dieu, chercher à appliquer sa volonté. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, il y a un mot intéressant utilisé pour décrire le repentir. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Mais prenons le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, parce que cette tristesse ne dure pas, elle n'est pas profonde. La tristesse du monde, ou selon le monde, ne nous amène pas au vrai repentir, comme le fait la tristesse selon Dieu. Et voici, Paul maintenant réagit au repentir des Corinthiens. Il les avait sévèrement corrigés dans la première épître aux Corinthiens. Maintenant, dans la deuxième, il les loue pour le repentir. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Ils se sont mis, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu les a rendus justes de nouveau. Quelle indignation! Je trouve ce mot très intéressant. On peut être indigné contre le péché. Quand on voit les dégâts qui sont causés par la transgression de la loi de Dieu, on peut et on devrait ressentir une certaine indignation de tomber de nouveau dedans. Quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. On peut même se venger, punir le péché en faisant le bien. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Indigné contre le péché. Est-ce que nous sommes indignés contre l'idée même du péché, de violer la volonté et la loi de notre Père céleste? Cela devrait susciter une indignation. Et cela nous pousse à nous repentir. 1 Jean chapitre 1 également, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça fait partie du repentir de marcher dans la lumière. Marcher dans ce que Dieu nous dit dans la Bible, les choses qui sont propres et justes et bonnes. De marcher dans l'obscurité, c'est de suivre la voie de Satan, les choses qu'on veut cacher aux autres parce que c'est sale. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le péché est là. Nous avons encore une nature pécheresse qui lutte contre le Saint-Esprit en nous et contre notre entendement. Nous voulons obéir, nous avons la volonté de le faire, mais il y a des aspects de notre caractère qui poussent dans le sens contraire. Le péché est là. Mais nous devons nous efforcer et avec l'aide de Dieu, nous le pouvons, de marcher de plus en plus dans la lumière. Nous devons nous concentrer pour enlever les péchés, pour ne plus commettre ou recommettre les péchés du passé. Petit à petit, on peut gagner du terrain. Petit à petit, on peut gagner du terrain. Alors, troisième clé pour être des vainqueurs, c'est garder l'habitude de se repentir. Garder l'habitude de se repentir. Une quatrième clé pour être vainqueur. Nous devons éviter les conditions qui nous poussent vers le péché. Éviter les conditions, les circonstances qui nous poussent vers le péché. Les circonstances qui nous entourent nous affectent. Et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, peuvent rendre plus facile ou plus difficile la résistance contre le péché. Je me souviens quand nos filles étaient petites, je faisais des courses avec elles parfois au supermarché, et il y avait deux rayons que j'évitais. Quand j'avais les filles avec moi dans le caddie, il y avait deux rayons que j'évitais. J'évitais le rayon bonbons, chocolat, et j'évitais le rayon des jouets. Parce que c'était tellement attirant pour les filles que ça entamait presque une lutte entre elles et moi parce qu'elles voulaient, papa, est-ce que je peux avoir un bonbon? Papa, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ce jouet? Et je devais expliquer, non, on peut pas, non, pas cette fois-ci. Mais évidemment, les enfants ne veulent pas arrêter, hein, ça continue, ça presse, parce qu'ils sont tellement attirés. Alors le mieux pour moi, c'était simplement même de ne pas y aller, de ne pas aller dans ces rayons-là. Et si, par mégarde, je commençais à entrer dans le rayon, je tournais tout de suite le dos quand je me rendais compte de ce que c'était, pour éviter la tentation, pour ainsi dire. Et vous savez, frères et sœurs, c'est comme ça dans la vie également. Il y a des rayons dans la vie où nous ne devrions pas aller. Nous ne devrions pas entrer dans certains rayons de la vie, où nous serons tentés par des choses qui ne seraient pas bonnes pour nous. Proverbe chapitre 22, verset 3. Proverbe chapitre 22, verset 3. Ce proverbe-ci est répété deux fois dans le livre des Proverbes. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il évite la proximité même. Il ne veut même pas être en proximité du mal. Il se cache, il s'éloigne. Et nous devons agir comme cela, éviter les situations qui nous induisent en tentation. Comme quelqu'un l'a dit, quand on fuit la tentation, il ne faut pas laisser une adresse de réexpédition. Nous voulons couper tout contact. Nous devons couper tout contact. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire ce passage et puis je vous raconterai une petite histoire qui est arrivé et qui est devenu une espèce de mythe à la base au collège quand j'étais étudiant. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Fuyez. Fuir, le mot n'est pas trop fort. Nous devons quitter la situation, sortir de là. Comme j'ai dit, il y avait une histoire qui est arrivée à la base de collège avant que je ne sois étudiant. C'était un étudiant vers le début de la base de collège. Ils ont fait une sortie de Pasadena en Californie au Mexique. La frontière mexicaine n'était pas très loin. Et ce n'était pas aussi dangereux de franchir la frontière comme c'est souvent le cas maintenant. Alors, ils sont allés en Mexique. Et ils étaient à Tijuana, et puis un groupe d'étudiants, tout d'un coup, ils ont vu l'un de leurs camarades de classe qui courait à toute vitesse dans la rue. Et ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que quelqu'un le poursuivait, est-ce qu'il y a un vol, tentative de vol, ils ne savaient pas. Et plus tard, c'est seulement plus tard qu'ils ont appris qu'il y avait une femme là qui lui a fait une proposition. Et il s'est souvenu de ce verset-là, « Fuyez la débauche ». Il s'est retourné immédiatement, il a couru dans le sens opposé de cette femme. Il ne voulait pas rester. Et on rit un petit peu de ça, d'imaginer cette scène, mais il a bien fait. Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Il a bien fait. Il a quitté les lieux au plus rapidement possible pour ne pas rester là devant la tentation. Fuyez, sortez rapidement, ne restez pas là. Nous devons éviter les conditions qui peuvent nous induire en tentation vers le péché. Ce n'est pas la peine de rester là. Bien au contraire, nous devons courir, quitter les lieux. Cinquième clé pour être des vainqueurs, le jeûne. De prendre le temps de jeûner de temps en temps. C'est une façon de se rapprocher de Dieu, une façon clé, une méthode clé pour se rapprocher de Dieu. C'est de jeûner. Regardons Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 14. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Quand les conditions changent, certains comportements changent. Il n'était pas nécessaire pour les disciples de Christ de jeûner quand il était là avec eux. Mais quand il serait enlevé, quand il ne serait plus là en personne avec eux, pour se rapprocher de lui, ils allaient jeûner. C'est un passage clair qui montre que l'un des grands buts du jeûne, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est d'entrer, ou mieux entrer dans sa présence, pour être enseigné par lui. Les conditions actuelles sont propices au jeûne, puisque Dieu n'est pas là corporellement avec nous. C'est une façon d'apprendre, de réapprendre l'humilité. C'est une façon de nous rendre compte de notre besoin de Dieu quand nous sommes affaiblis par le jeûne. Nous nous penchons également davantage sur son aide pour nous quand nous sommes faibles à cause du jeûne. Tout cela nous aide à nous rapprocher de Dieu. Et plus nous sommes proches de Dieu, plus forts nous serons pour résister aux tentations vers le péché. Deux Chroniques, chapitre 26, s'il vous plaît. Deux Chroniques, chapitre 26. L'humilité pour recevoir l'aide de Dieu est très importante. Et une bonne voie vers cette humilité, c'est le jeûne. Deux Chroniques, chapitre 26, verset 1. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Regardons maintenant le verset 5. J'ai tourné la page trop vite. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Quand il cherchait Dieu, il s'humiliait devant Dieu, il cherchait à obéir à Dieu, Dieu le fait prospérer. Mais au verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra auprès de lui avec 24 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était la fin. Dieu ne le fait plus prospérer. Il a payé le prix de son orgueil. Quand il était humble, il avait la bénédiction de Dieu. Quand il est devenu orgueilleux et désobéissant, eh bien, c'était la chute. C'était le désastre pour lui. Je vous laisse lire le reste du chapitre pour voir ce qui s'est passé, mais c'était rien de bon. Il est très important pour nous de rester humbles dans nos rapports avec l'Éternel et dans nos rapports les uns avec les autres. Et un outil pour garder cette attitude d'humilité, c'est le jeûne. Sixième clé pour être des vainqueurs. Sixième clé, c'est la prière. La prière. La prière devrait être quelque chose que nous faisons tous les jours pour maintenir notre contact avec l'Éternel, pour maintenir notre conversation avec lui. Nous avons déjà parlé de bien connaître l'épée de l'Esprit qui est la parole. Ça, nous devons l'avoir. Nous avons parlé du jeûne. Maintenant, un autre aspect de cette conversation, c'est la prière. Notre contact avec Dieu. Nous ne devons pas laisser passer un jour sans nous isoler pour parler à notre Père céleste. Regardons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand nous prions notre Père, nous approchons avec assurance à ce trône. Nous approchons ce trône où Dieu siège. Et nous pouvons recevoir ainsi grâce, miséricorde et secours dans nos besoins. La prière sert, entre autres choses, à ça. Pour recevoir l'aide, l'intervention de Dieu, nous devons demander. Nous devons la demander. Et Dieu va nous aider dans nos besoins. Moi, j'ai des besoins tous les jours. Alors, je devrais aller tous les jours devant Dieu les présenter pour être secouru dans mes besoins. Et nous sommes tous dans ce même panier. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 18. Éphésiens chapitre 6. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, il y a plusieurs choses dans ce petit verset ici. Nous devons faire d'abord toutes sortes de prières et de supplications. Il y a plusieurs types de prières. Toutes sortes de prières. Il y a des prières de reconnaissance, il y a des prières de partager avec Dieu une peine ou une joie que nous pouvons expérimenter dans la vie. Il m'arrive souvent, quand je vois un beau coucher du soleil, de dire une prière de remerciement à Dieu. « Ah, merci de me donner les yeux pour voir ça. Merci d'avoir créé le ciel ainsi et les nuages et le soleil pour que je puisse avoir cette grande joie de voir un coucher du soleil ou lever du soleil ou autre chose qui me frappe dans la nature, dans la création de Dieu. » Ça, c'est une sorte de prière. Ce n'est pas notre prière quotidienne, peut-être. Ce n'est pas la prière modèle que nous avons, que Jésus a donnée. C'est une autre sorte de prière. Ou quand nous prenons conscience, il y a une demande de prière pour un frère ou une sœur, on peut immédiatement, silencieusement, dans son esprit, demander à Dieu, « S'il te plaît, Père, cet homme, cette femme est vraiment méritant. Je te demande, j'ajoute mes prières aussi, hein, que tu interviennes pour eux, s'il te plaît. » Il y a toutes sortes de prières. Mais nous, la prière devrait faire partie intégrante de notre journée. Et on peut prier tout au long de la journée, puisque Dieu entend nos pensées. Quand nous pensons quelque chose, Dieu sait ce que c'est. Nous pouvons rester dans la prière ainsi régulièrement tout au long de la journée. Et nous devons prier non seulement pour nous, mais pour tous les saints. Nous devons prier pour nos frères et sœurs dans l'Église, ceux que nous connaissons et ceux et celles que nous ne connaissons pas dans d'autres coins du monde. Nous pouvons demander à Dieu d'intervenir en leur faveur pour les aider. Et il dit que nous devons faire cela avec une entière persévérance. Une foi ne suffit pas. Il faut persévérer dans la prière si nous voulons avoir la réponse. Parfois, Dieu répond très rapidement. Il exauce immédiatement presque. Et à d'autres moments, ça peut attendre des jours, des semaines, des mois, des années avant d'exaucer une prière. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons persévérer dans la prière. Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête ». Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Selon l'échelle de Dieu, c'est prompt, promptement. Selon notre échelle à nous, parfois, ça ne semble pas si prompt que cela. Mais c'est Dieu qui voit les choses clairement, dans la réalité, beaucoup mieux que nous. Nous devons persévérer dans la prière. Nous pouvons être sûrs que la réponse viendra au meilleur moment pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la situation en question. La prière fait agir la main qui fait agir le monde. La prière fait agir la main qui fait agir le monde. Fait agir la main du Tout-Puissant. Alors nous devons avoir recours à cette communication tous les jours. Ça doit être une priorité dans notre journée. Et la septième et dernière clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, nous devons laisser ou permettre à Jésus-Christ de vivre sa vie en nous. Car c'est de là que va venir la victoire ultime. Jésus-Christ qui vit sa vie en nous à travers la présence du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Un passage que nous avons lu à l'approche de la Pâque, nous le faisons chaque année. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Jésus-Christ est en nous. Il emploie le Saint-Esprit pour nous transformer de l'intérieur. Il nous aide à faire ce qui est droit et juste devant Dieu. Il nous aide à résister à ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Jésus-Christ en nous. Et nous devons permettre cela. C'est possible pour un chrétien de résister à l'agissement du Saint-Esprit, de résister à Jésus-Christ parce qu'il veut faire à sa tête. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, il cherche sa propre volonté. Et la Bible nous met en garde contre le fait de navrer le Saint-Esprit, de le blesser. 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean chapitre 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. » Jésus-Christ vit sa vie en nous à travers la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons coopérer humblement. Nous devons céder aux influences de Christ à travers le Saint-Esprit pour nous mener dans la bonne direction, pour nous guider vers le bien et pour nous écarter de ce qui serait contraire à la volonté de Dieu et qui serait contraire à notre bien-être. Le sujet du péché et de la justice nous rappelle chaque année, lors de la fête des pains sans levain, que nous devons continuer la lutte contre le péché et nous devons remplacer le péché par la justice. C'est une lutte qui va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ sur terre, mais nous avons la certitude de gagner si nous persévérons dans la lutte. Nous n'avons jamais baissé les bras. Pourvu que nous continuions d'essayer, Dieu nous assure la victoire. Je vais terminer en lisant avec vous Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. Après avoir lu, enfin dressé toute une liste de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie, qui nous séparera de l'amour de Christ, verset 35, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, même si nous étions réduits à ces extrémités-là, même dans ces circonstances-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'allons pas seulement être des vainqueurs, nous allons être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand nous suivons Jésus-Christ et nous permettons à ce qu'il vive sa vie en nous, nous allons devenir plus que vainqueurs. Alors voilà, frères et sœurs, cette clé pour être certain qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons trouvés des vainqueurs. Je vous souhaite une excellente fête des pains sans levain.